Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Antoine Robitaille. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y a 10 ans, François Legault, dans son livre « Cap sur un Québec gagnant », rêvait de zones d'innovation où les universités et les entreprises privées vivraient en synergie afin d'améliorer la créativité du Québec. En 2022, deux de ces zones ont vu le jour, une à Sherbrooke, l'autre à Bromont. Mais dans le concret, comment ça se présente? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une zone d'innovation? Le député caquiste de Bécancour, Donald Martel, responsable de ce dossier, nous en parle. Mais d'abord, discutons de l'actualité politique brûlante avec un député de l'opposition.
Antoine Robitaille.
Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Sitôt déposé, le projet de réforme de la santé du ministre Dubé suscite des critiques sévères. Même mon prochain invité, qui a la réputation d'être un gentil, l'a fustigé ce matin. C'est Joël Arsenault. Bonjour.
Bonjour.
Porte-parole du Parti québécois en matière de santé.
Ouais, donc, c'est ça. Je ne vais pas perdre ma bonne réputation.
C'était pas mal dur ce matin. Orwellien. Pourquoi vous parliez d'une situation orwellienne?
Ben, en fait, on est surpris par l'ampleur de la réforme que veut mener M. Dubé, puis à vouloir trop en faire, peut-être qu'on va perdre l'essentiel. Puis la raison pour laquelle je parlais d'Orwell, c'est qu'on semble dire une chose et faire le contraire, ou faire croire une chose et dans les actions faire essentiellement le contraire. Par exemple, dire qu'on va instituer un nouveau mode de gouvernance décentralisé, alors qu'il s'agit de former une nouvelle agence qui va être dirigée par un seul CA centralisé à Québec, on le suppose, alors qu'aujourd'hui, on a des conseils d'administration régionaux qui ont perdu du pouvoir là avec la réforme Barrette. Maintenant, on les fait disparaître. Moi, je vois pas comment on décentralise en centralisant, par exemple, l'administration ou la gestion des soins de santé à travers une agence qui sera dirigée par des top guns du privé. Alors moi, c'est de faire dire le contraire au mot qui est positif, celui de la décentralisation. C'est comme pour l'imputabilité. Puis on pourra entrer dans les détails tout à l'heure, mais on a l'impression avec la structure qu'on va mettre en place que les gestionnaires du système de santé n'auront jamais été aussi peu imputables face à la population. Est-ce qu'ils seront imputables face au ministre? Sans aucun doute. Mais est-ce que le ministre, lui, répondra à nos questions lorsqu'on lui parlera des opérations, puis qu'il dira « Moi, je suis pas là pour éteindre des feux », comme il a dit il y a à peu près un mois. C'est pas moi qui est responsable des opérations. Moi, je dis que tu as les grandes orientations. Mais est-ce qu'on perd pas un peu d'imputabilité? Donc, c'est là...
Est-ce qu'on a perdu l'imputabilité du ministre du Revenu, par exemple, en créant l'Agence du Revenu? Avez-vous cette impression? Parce qu'il y en a une, l'Agence du Revenu, qu'on a créée.
Moi, j'ai pas l'impression que l'Agence du Revenu est très parlable si on est aux prises, si on a des démêlés avec l'Agence du Revenu. C'est un peu comme... J'ai l'impression qu'on prend au Québec la voie empruntée par le gouvernement fédéral dans bien des secteurs où on a l'impression là d'une déconnexion avec les gens sur le terrain. Puis on fait appel parfois à des députés qui nous disent « Écoutez, nous, l'agence ben, amène son petit train, là, puis on n'a pas un mot à dire parce qu'on peut pas faire d'ingérence politique. » Alors, si on n'est plus capable d'avoir de réponse des gestionnaires locaux parce qu'ils disent « Moi, je réponds pas aux citoyens, je réponds même pas là, aux demandes du personnel, je réponds à mon patron en haut à Québec, là. » On aura perdu le contrôle sur notre système de santé publique.
Est-ce que on peut faire un parallèle avec les centres de services scolaires? où justement il y avait un palier responsable élu, même s'il n'y a pas grand monde qui participait aux élections, au moins on avait quelqu'un là, à qui on pouvait poser une question, un président de commission scolaire. Là, ça remonte à Québec tout de suite, mais...
Exactement.
Il y a un parallèle à faire.
Ben, un parallèle qu'on voit directement, et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de loi 15, c'est qu'on transforme des conseils d'administration en conseils d'établissement. Les conseils d'établissement, c'est ce qu'on a fait dans les commissions scolaires ou dans les écoles. Mais un conseil d'établissement, ça a pour fonction, justement, d'échanger des idées avec la direction d'école, par exemple, qui n'a absolument aucune obligation de rendre des comptes ou de retenir quelque idée que ce soit. C'est simplement un partage d'informations et d'expériences. Alors qu'un conseil d'administration, normalement, c'est le patron, il y a un directeur qui travaille pour le conseil d'administration. Mm-hmm. Ce palier-là là, de gouvernance, il a déjà sauté avec la réforme Barrette. Là, on le fait carrément sauter dans son pouvoir, c'est-à-dire. Là, on le fait carrément disparaître. Et c'est là que je pense qu'on va avoir une mainmise à Québec sur... l'espèce de la gestion en général des opérations, mais est-ce que la qualité ou l'humanité des services va nécessairement en ressentir mm-hmm. grandi? Est-ce que la voix de l'usager ou de l'acteur là, de premier plan, les professionnels en soins, va être entendue? Certainement, là, il n'y aura pas d'obligation à cet égard. Et moi, j'en veux par exemple pour preuve que dans les régions, dans les communautés, on peut avoir des services, par exemple, en CLSC ou dans des hôpitaux communautaires qui soient différents dans l'approche, qu'on soit en Abitibi, qu'on soit à Hochelaga-Maisonneuve ou qu'on soit aux Îles-de-la-Madeleine. Mais pour ça, il faut faire valoir les besoins de la communauté, les besoins socio-économiques, tu sais, épouser un peu...
Mais êtes-vous d'accord avec certains aspects de la réforme? Comme,
oui, mais là, ce qu'on parlait de gouvernance.
Une ancienneté nationale?
Bien, c'est ça. Là, si on veut parler
est-ce que ça ne tombe pas sous le sens, il me semble?
Bien, oui. Puis c'est l'exemple qu'on donne à chaque fois. C'est que si on s'est donné des cadres trop rigides dans la mobilité de la main-d'œuvre, disons, mm-hmm. Puis qu'on veuille les réviser, absolument, on est partant pour trouver de meilleurs mécanismes. Mais est-ce qu'on avait besoin d'un projet de loi de 1200 articles qui transforme là, le mode de gestion pour arriver à cette fin de permettre aux gens qui travaillent pour le réseau de la santé dans un établissement d'aller travailler dans un autre établissement du même réseau de la santé? Moi, j'ai un doute. Est-ce qu'on avait besoin de faire cette grande réforme-là? Même chose pour la responsabilité populationnelle des médecins spécialistes. Mm-hmm. D'ailleurs, ça a été leur réaction de dire... Ben, nous, on est bien d'accord de discuter de cet aspect-là, puis on pourrait négocier, puis on pourrait trouver un terrain d'entente, mais on n'a pas besoin d'une loi qui nous l'impose mm-hmm. et qui impose bien d'autres choses aussi. Fait qu'il y a des éléments là-dedans qui sont certainement positifs et qui coulent sous le sens. C'est-à-dire qu'une personne qui a 25 ans d'expérience puis qui change d'établissement, ben, on doit reconnaître son expérience, point.
Depuis hier, on dit que c'est une énorme réforme, un énorme projet de loi. L'avez-vous lu en entier, le projet de loi?
Non, absolument pas. Je ne vous cache pas que ce projet de loi-là, il va falloir des semaines pour véritablement en saisir toute la portée. Puis il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes qui seront très positives. Mais dans l'esprit de ce qu'on nous a présenté sur le pouvoir qu'on veut donner à une agence qui sera... qui n'aura pas de compte à rendre ni au public, ni à la sphère politique, aux législateurs. Moi, je trouve que c'est un geste qui est malheureux.
Mais c'est une idée qui circule depuis longtemps, l'agence. Là. Michel Clerc, dans son rapport « Les solutions émergentes » en 2001, proposait ça. C'est un ancien ministre du Parti québécois. Il disait « faut dépolitiser ». La santé est trop politisée, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que les ministres sont appelés à faire de la micro-gestion là, à l'Assemblée nationale là, pour telle personne qui n'a pas eu un soin dans tel hôpital?
Ben, moi, je suis pas certain qu'à l'heure actuelle, il y a une politisation du réseau qui fait en sorte que certains ont accès à des services, puis certains n'en auraient pas. Habituellement, quand on parle d'une politisation, c'est comme s'il y avait une intervention politique qui favorisait certains au détriment des autres.
Non, moi, je voulais dire, tout devient politique, tout devient partisan, au fond. Tout devient partisan.
Moi, en fait, je vois plutôt le système à l'heure actuelle qui est un système public et qui devrait avoir cette espèce d'ouverture vers la communauté qu'il dessert. Et le politique, complètement hors de la partisanerie, devrait pouvoir veiller à ce que les choses se passent au mieux. Et si on voit qu'il y a justement des problèmes, mais qu'on puisse en parler, qu'on puisse le faire valoir auprès du ministère et notamment du grand patron, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, pour vérifier si la machine s'est enrayée, si les gestionnaires prennent en compte les besoins de la population. Mmh. On le fait dans tous les secteurs d'ailleurs, mais c'est pas nécessairement pour avoir des privilèges. C'est pour régler souvent des cas citoyens ou des cas de circonscription qui sont importants et pour lesquels les gens n'ont pas de recours autre que de faire appel à ceux à qui, normalement, on rendait compte.
Est-ce que c'est une réforme, Barrette, à visage humain?
Je souhaite que la réforme ait un visage humain. Actuellement,
parce que vous avez dit que c'est la continuation des réformes Barrette.
Ben, il semble définitivement que le ministre s'inspire des orientations de la réforme Barrette dans la réorganisation de la gestion des services. Monsieur Barrette lui-même semble s'approprier, si on veut, un peu les bases de la réforme qu'a présenté Monsieur Dubé. Monsieur Dubé,
est-ce qu'il n'y avait pas du bon dans ce que M. Barrette voulait faire? C'est devenu comme un épouvantail, mais il voulait justement que les médecins donnent plus de services, il voulait forcer avec ces fameux bâtons là, dans ces lois. Est-ce que c'était pas une bonne chose? Les Québécois, ils veulent des services, puis c'est ça qui est frustrant. Ils veulent de l'accès, ils veulent améliorer l'accès.
Bien, en fait, on est tout à fait au même endroit. Si on regarde le Napron, par exemple, parce que l'entreprise de communication est extraordinaire. Là, ouais. Disons-le, on n'a pas lésiné sur les moyens. Et M. Dubé est un habile communicateur. Maintenant, si on regarde le Napron qui nous dit, voici les objectifs qu'on poursuit. On peut pas être contre la vertu quand on nous dit qu'on va optimiser les services et qu'ils seront axés sur la satisfaction des usagers. Bien sûr, si on veut un système plus efficace, c'est ça l'objectif général, bien sûr. Mais nous, actuellement, on a peine à voir le lien entre ces objectifs qui sont poursuivis et les moyens qui sont mis en place, qui sont essentiellement des moyens technocratiques pour mieux gérer comme on le ferait dans une entreprise privée. Ouais. Mais une entreprise privée n'a pas de compte à rendre à ses clients, n'a pas de compte à rendre à son personnel. Mm-hmm. Et là, c'est comme si, par une espèce de pensée magique, on disait, puisque ce sont des gestionnaires du privé, on va transformer le réseau en une espèce de grande entreprise qui va être hyper efficace, puis qui va rapporter à tous. Je ne suis pas certain que c'est une médecine ou un service, des services de santé qui vont être davantage humanisés, surtout si les premiers impliqués, ceux qui livrent des services, ne se voient pas revalorisés dans leur
rôle. Mais que feriez-vous, vous, Parti québécois?
Mais nous, on avait proposé, en fait, exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on voulait décentraliser pour de vrai, oui, en nommant des gestionnaires imputables sur le terrain, dans chacun des établissements.
Mais ça, c'est les régies régionales de l'époque de Marc-Yvan Côté qui ont été abolies ou transformées en agences par Philippe Couillard. Ensuite, les agences ont été transformées en CIUS. Donc, on reviendrait à la réforme des années 90 ou 80 de Marc-Yvan Côté?
En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si on veut renforcer la première ligne, nous, on pense que c'est à travers les CLSC. Alors, vous nous direz, oui, c'est une invention des années 70, mais qui n'a jamais été menée à terme parce que, justement, il y a eu toutes sortes de blocages. Nous, on pense que si on veut rendre des services à des communautés, il faut que ce soit des humains qui le fassent et qui le fassent avec une réduction de compte envers les usagers. Et c'est pour ça, quand je dis qu'on voulait faire exactement l'inverse, plutôt qu'avoir un conseil d'administration à Québec, nous, on pense que les conseils d'administration, ils doivent être locaux et qu'ils doivent être la voix de la population et des usagers qui obtiennent des services. Et que le gouvernement, que le ministère...
Donc, une régie régionale, un peu?
Même sur le plan national, je pense qu'on a raison de dire que le ministère devrait fixer les orientations. Mais ce qu'on a vu au cours des dernières années, et toutes les réformes avec l'abolition des régies régionales, puis ensuite des agences, puis ensuite des établissements rassemblés, tout ça,
c'est ça,
on a concentré le pouvoir entre les mains d'un ministre qui doit répondre à peu près de tout, alors qu'au contraire, moi, je pense qu'on devrait donner à la fois la responsabilité de gérer les opérations, mais également de rendre des comptes à la population et non pas être tourné vers Québec, vers le ministère. C'est là que moi, je pense qu'on fait fausse route. Les gestionnaires qui seront responsables des établissements à travers le Québec, est-ce qu'ils sont tournés vers le public ou ils sont tournés vers le ministre pour lui plaire ou pour plaire à la population, pour rendre des services à la population ou pour se rendre service, pour aspirer à de meilleures positions, à des promotions dans l'avenir? C'est cette machine-là qu'on est en train de mettre en place. Et moi, je pense qu'on prend une distance par rapport au lieu où on administre des soins.
Bien, on y reviendra, hein, parce que c'est un projet de loi, comme on l'a dit, énorme, plus de 1000 articles, et peut-être qu'on y trouvera des surprises ou, comme vous avez dit, des bons côtés. Alors, c'est certain qu'on va en reparler. Merci beaucoup, Joël Arsenault.
Merci.
Joël Arsenault est porte-parole du Parti québécois en matière de santé.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Dans Cap sur un Québec gagnant, François Legault, il y a 10 ans, écrivait « Mon objectif est de faire de la vallée du Saint-Laurent une région phare qui s'appuiera principalement sur les trois grands pôles universitaires que sont Montréal, Québec et Sherbrooke, mais également sur l'ensemble des zones d'innovation, donc j'insiste sur le mot, qui existent déjà ou qui seront implantées dans les villes et les régions du Québec. » Or, deux de ces zones d'innovation, Sherbrooke et Bromont, ont été dévoilées il y a un an. Et avec nous pour en parler, il y a Donald Martel. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Donald Martel est député de Nicolet Bécancour, de la Coalition Avenir Québec, évidemment, adjoint parlementaire du ministre Fitzgibbon, Économie, Innovation et Énergie. Donc, je commence par une question de base, là. C'est quoi une zone d'innovation? Exactement. On comprend qu'il y a une idée de synergie. Mais qu'est-ce que c'est?
Je dirais deux choses. La première, c'est un lieu.
Oui.
Puis la deuxième, c'est un peu une philosophie de dynamique économique. Le lieu, parce qu'il faut savoir que quand on a parti les zones d'innovation, c'est le premier mandat que M. Legault m'a confié.
Oui.
Et moi, j'étais parti exactement de la même chose que vous avez, de son livre. Il n'en existait pas au Québec. Et ça fait longtemps que j'étais avec M. Legault, je savais de quoi qu'il parlait.
Mm-hmm. Oui, vous êtes un
vieux de la vieille.
De la première
heure. Oui, absolument. Donc, l'idée, c'était de trouver un lieu commun. Puis dans notre esprit, dans mon esprit, je vais dire, je voyais une espèce de vieux quartier industriel qu'on voulait reniper. Et pour que ça devienne beau, ça devienne un élément recherché pour attirer des cerveaux à aller travailler là. Quand je parle de philosophie, ben, c'est de mettre ensemble le milieu universitaire et le milieu privé, l'entreprise privée.
Quand vous dites là, un lieu, moi, ça me fait penser, par exemple, à la Cité du commerce électronique de Bernard Landry ou de son espèce de
graphiste
dans Saint-Roch, jeux vidéo, tout ça. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire?
Oui, c'est un peu ça le concept. Mais quand je vous dis qu'on est parti avec ça, évidemment, j'ai fait une tournée de toutes les régions du Québec pour dire, puis quand je m'adressais aux gens, je disais, moi j'étais 19 ans directeur du CLD de Nicolet Yamaska.
CLD, Centre local de développement.
Donc, ça. Du développement économique, mais j'avais aussi la direction générale de la MRC. Puis je disais, j'étais à votre place. Avant d'être député, j'étais à votre place, puis il y avait un nouveau gouvernement, il arrivait avec une nouvelle philosophie, puis souvent ça se ressemblait. Ce que je vous présente, moi, j'ai jamais entendu parler de ça au Québec. Puis, ce que je veux, c'est vous semer des graines, présenter l'idée de faire travailler le milieu universitaire avec l'entreprise privée, mettre en complicité les municipalités pour développer des beaux lieux. Mais l'objectif, c'était de développer une expertise au niveau mondial. Donc, l'idée, c'est-à-dire... Moi, je vous présente ça. Si vous avez une idée, ce qui est différent par rapport aux autres gouvernements, c'est voyez-nous pas comme on voit normalement un gouvernement où on va répartir nos billes équitablement partout de la même façon. Nous, par rapport aux zones d'innovation, voyez-nous comme un partenaire d'affaires. Vous avez un projet où les concepts que je vous dis, l'entreprise privée, sont prêtes à faire des investissements importants. Il y a des grappes de recherche, des universités qui sont associées à ça puis qui sont prêtes à aller collaborer. Nous, on va regarder qu'est-ce que vous avez en termes d'investissement. Puis si on est capable de retrouver des billes, on va mettre des sous puis on va mettre beaucoup de sous, nous autres aussi. On veut, par les zones d'innovation, vraiment se distinguer à l'échelle mondiale. On veut avoir quelques créneaux qui vont faire en sorte qu'au Québec, ça, on est les premiers au monde ou, en tout cas, dans le top mondial. Donc, pour faire face à la concurrence mondiale, pour faire face, c'est important, puis c'est une façon pour nous de générer des investissements privés importants.
Là, dans le budget, il y a 100 millions qui sont annoncés sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, précisément, dans le cas, par exemple, de Sherbrooke et Bromont?
Bien, il n'y avait pas de sous avant dans ce budget-là. Évidemment, il y a des structures qui s'établissent à travers ça. Ça peut être des structures existantes. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a besoin d'un peu
d'input. Des structures, c'est quoi?
Par exemple, ça peut être un organisme de développement économique, mais on va demander de modifier pour mettre l'entreprise privée là-dedans, mettre aussi des partenaires universitaires. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que à la fin, il y ait des gens de tous les milieux pour faire en sorte que on veut développer ce milieu-là. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est l'expression que j'ai, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux pas que ça soit juste le gouvernement qui porte le singe sur ses épaules. On met beaucoup d'argent à l'entreprise privée, la municipalité, le gouvernement. Donc, si on est beaucoup de personnes imputables, on va travailler tout le monde en collaboration pour que ça fonctionne.
Donnez-moi des exemples. À Sherbrooke puis à Bromont, qu'est-ce que c'est?
Bien, à Sherbrooke, c'est, par exemple, il y a une expertise au niveau de l'université. Il y a un des meilleurs chercheurs au monde. Je ne me souviens plus de son prénom, mais c'est un monsieur Blais.
Oui.
Évidemment, il y a une faculté du quantique, puis ça, c'est une technologie, une science qui est appelée à se développer. Puis vraiment, au niveau du Québec, on est... on a été capable d'associer...
Les ordinateurs quantiques, par exemple.
Absolument. Bon, bien, on a financé un ordinateur quand même assez important au niveau d'IBM. Donc, tu as des compagnies privées comme ça qui disent, on va la développer. Tu as les chercheurs qui, bien sûr, ils continuent de faire de la recherche. Comment on dit ça, de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée. Donc, là, on a une sommité au niveau mondial, au niveau quantique, un chercheur universitaire, on l'associe à de l'entreprise privée pour faire bénéficier, mettre toutes nos forces en collaboration pour développer une expertise mondiale.
Et à Bromont, est-ce qu'il y a un exemple?
À Bromont, on est parti de quelque chose qui était déjà très dynamique. C'est tous les circuits imprimés, puis c'est les deux. On les a annoncés en même temps, Sherbrooke et Bromont. Puis si vous vous rappelez, la semaine dernière, M. Biden a parlé beaucoup des circuits imprimés.
Ah oui?
Il ne disait pas comme ça, mais...
Parce qu'ils sont faits en Chine, principalement.
Oui, mais à Bromont...
On peut s'affranchir de cette dépendance.
Absolument. Puis à Bromont, ils sont en train de développer vraiment une expertise. On est parti de quelque chose d'existant, mais on y apporte un peu de input, puis on met les universités un peu plus en collaboration.
OK. Mais qu'est-ce qui fait que les universités n'étaient pas en collaboration avant avec l'entreprise privée? Parce qu'il me semble qu'il y a déjà beaucoup de collaboration. Quand on va dans les universités, il y a des chaires qui sont financées, il y a des universitaires eux-mêmes qui font des contrats pour les entreprises.
Hier, j'étais, je sais pas si je peux le nommer, là, mais j'étais à l'Institut de cardiologie avec le docteur Tardif, qui est une sommité au niveau de la médecine de précision.
OK.
Je sais pas quel âge qu'il a, M. Tardif, mais ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé, il est professeur à l'université.
Laquelle?
Montréal.
OK.
Mais il est aussi, c'est un des cardiologues les plus réputés mondialement, là. Et ce qu'il nous disait, c'est que lui, quand il a commencé sa médecine, quand il a commencé à enseigner à l'université, s'il y avait des découvertes, des brevets ou des choses comme ça, pour le milieu universitaire, c'est un peu péché de faire de l'argent avec une découverte ou quelque chose comme ça. On est en train de décomplexer ça, je pense, au niveau universitaire, de dire, regarde, continuez à faire votre recherche fondamentale, mais vous pouvez devenir aussi des joueurs économiques vraiment importants si on veut se développer, si on veut développer des expertises au niveau mondial. Donc, moi, je regarde, là, mettons, ça fait 4 ans et demi que je côtoie les universités.
Ouais.
Je trouve qu'il y a un changement vraiment fondamental. Je vois les recteurs de plusieurs universités du Québec qui s'impliquent dans les zones d'innovation, qui veulent les zones d'innovation parce qu'il y a là une opportunité de s'associer des fois à d'autres universités, d'attirer peut-être des étudiants ou des professeurs de l'étranger pour venir rehausser leur connaissance dans divers milieux. Donc, c'est vraiment intéressant l'espèce de symbiose qu'on est en train de créer entre l'université et le milieu économique.
Mais la différence avec une chaire de recherche, qu'est-ce que c'est? Une chaire de recherche qui serait financée par une entreprise?
Bien, il peut avoir, je suis moins familier par rapport aux chaires de recherche, là, mais évidemment, ça peut servir à les cours qu'ils vont donner, ça peut être des diagnostics qu'ils peuvent donner à des entreprises, mais ça va se faire souvent dans le milieu universitaire.
OK.
On va faire profiter peut-être du fruit du travail à l'entreprise qui peut être associée. Mais là, c'est vraiment de mettre en collaboration les chercheurs de l'entreprise privée, les centres d'innovation de l'entreprise privée avec nos chercheurs universitaires.
Puis ça marche?
C'est...
Là, vous en avez deux seulement. D'ailleurs, pourquoi ça a pris tant de temps? De 2018, ça a pris jusqu'à 2022 pour le lancer?
Parce que c'était nouveau.
Lancer les deux premières?
Honnêtement, M. Robitaille, on aurait pu l'annoncer à des fins politiques, juste avant la campagne, là, peut-être 4, 5, 6. Pour nous, une condition fondamentale, c'est que le milieu de l'entreprise privée se commette. Donc, on doit avoir des garanties qu'il y a des projets d'investissement privé. Et là, on a 32 projets qui ont été déposés. Évidemment, on n'aura pas 32 zones d'innovation, compte tenu que c'est vraiment des milieux, comme je disais, où on veut se distinguer à l'échelle mondiale.
Okay.
Mais le fait de faire travailler les joueurs que je vous disais ensemble, les 32 projets sont vraiment bons. On a déjà on a déjà financé un projet à Rivière-du-Loup avec Premier Tech, Cascade, Rio Tinto. Mais là, c'est plus un bâtiment dans lequel on investit. On a décidé d'appeler ça un peu des centres d'innovation. Au lieu des zones d'innovation, il y a Q-Scale à Lévis aussi, qu'on les a rencontrés au début de notre démarche. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont se développer sur forme de centres d'innovation. Mais les autres, je finis ma tournée, là. On a identifié 8 à 10. Je suis allé les rencontrer, je suis allé leur dire qu'on tient à leur projet. On sait qu'ils travaillent très fort là-dedans. Puis eux, ils nous disent, bien, désignez-nous, ça va être plus facile. Puis moi, je dis, on fera pas ça. Tout le monde nous demande ça, mais pour vous désigner, on a besoin vraiment que les entreprises privées se commettent.
Je reviens à la question du lieu.
Oui.
J'ai peut-être mal compris, mais quelle est la différence entre ça puis les espèces de grappe qu'organisait, c'est peut-être pas le bon mot, grappe, ouais, mais Bernard Landry, mais à l'époque, autour du jeu vidéo ou autour du commerce électronique?
Il y a une inspiration, je vous dirais. Mais je vous le mentionnais tantôt, dans mon esprit, là, je parlais de vieux quartiers industriels.
Ouais.
Ça se fera pas comme ça.
Non?
Écoutez,
c'est où, à Sherbrooke, par exemple?
À Sherbrooke, c'est tout près de l'université, tout près du campus universitaire.
OK. Puis à Bromont?
à Bromont, c'est sur les terrains de l'ancienne usine Hyundai. Là. Okay. Il y a tout un parc de développement.
Donc, ça prend des terrains, c'est ça?
Ça prend des terrains. Puis, ce que je voulais vous mentionner, c'est que au début, on voyait des petits quartiers très désignés. Ça a beaucoup évolué. Tous les projets qu'on a reçus, il y a des projets qu'on a vus qui avaient des complémentarités. Je peux vous parler de Grande-Rivière, en Gaspésie, puis Rimouski, où tous les attraits du fleuve Saint-Laurent, que ce soit la pêche, que ce soit la navigation, que ce soit la flonde, etc., on a demandé aux gens de s'associer, de travailler ensemble. Donc, vous voyez que le quartier qu'on imaginait au début, là, il y a 500 kilomètres entre les deux. On n'est plus vraiment dans un quartier.
Il y a quand même une zone à ce moment-là? Ou?
On travaille pour une zone. Je peux vous parler chez nous, où il y avait Bécancourt qui avait déposé un projet. Il y avait Trois-Rivières, puis il y avait Shawinigan. Puis là, on a dit, il y a vraiment une ressemblance, il y a une parenté dans tous vos projets, notamment au niveau de l'énergie propre. Donc, on leur a demandé de travailler ensemble, de sorte que le concept des quartiers, là, très définis pour une zone d'innovation, ça a beaucoup évolué.
La prochaine zone qui va être annoncée, ce sera laquelle? Une primeur pour la hausse sur la colline?
Une primeur, bien, si j'avais un petit 2, je pense que la vallée de la transition énergétique serait probablement une des prochaines.
Et ce sera où?
C'est Bécancourt, Trois-Rivières, Nicolet. Oh,
ben, c'est vous dans
avez,
votre comté?
Vous avez, oui, vous avez. Puis, mais c'est ça qui est intéressant parce que j'ai travaillé beaucoup chez nous comme député.
Ouais.
Et j'ai travaillé au niveau national. Donc, ce qui se passe chez nous, je suis capable de le transposer ailleurs. Puis ce qui se passe ailleurs, je suis capable de le transposer chez nous. Mais vous allez comprendre que c'est pas juste à cause du député. C'est toute la dynamique qu'on est en train de développer avec la filière batterie.
Pourquoi on parle de vallée à ce moment-là et non de zone d'innovation?
Bien, parce que quand on va appeler zone, c'est qu'il va y avoir une désignation de zone.
OK.
On est très scrupuleux par rapport à ça.
Merci beaucoup, Donald Martel.
Un grand plaisir.
D'être venu nous expliquer ce concept qui est maintenant un peu moins mystérieux pour nous. Je rappelle que Donald Martel est député de Nicolet Bécancourt de la coalition Avenir Québec et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais évidemment, il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.